Bien, j'espère que les... ça marche. Oui, j'espère que les 50 minutes qui vont suivre vont permettre de démythiser les 5 minutes que nous venons d'entendre. Donc, vous avez reçu à l'entrée une feuille recto verso, d'un côté le plan de la déclaration d'Initatis Humanae et de l'autre côté le plan du cours. Comme vous pouvez le voir dès l'abord, le cours ne suit pas à proprement parler le plan de la déclaration parce que le texte de la déclaration est assez nourri. Il y a beaucoup de choses qui reviennent tout le temps et donc j'ai préféré prendre une approche plus thématique. Tout d'abord, une petite introduction historique extrêmement brève et partielle. Ça fait au moins 2 siècles que les rapports de l'Église et de l'État sont soumis à des tribulations, au moins depuis la Révolution française. Et le développement de la doctrine de l'Église sur la liberté religieuse, à cause de cela, n'est pas aisé à retracer. Car la réflexion de l'enseignement magistériel sur le sujet est fortement tributaire des circonstances dans lesquelles elle a été élaborée, qui étaient souvent des circonstances de combat, de polémique ou de riposte. Ainsi, lorsque l'Assemblée nationale française, issue des États généraux de 1789, se mêle de refaire l'Église, entre guillemets, selon des normes plus ou moins inspirées de la religion rousseauiste, le pape Pie VI et les évêques français craignent une dérive totalitaire. Pie VI n'entendait pas rétablir l'ancien régime, mais il ne pouvait accepter par ailleurs que l'Assemblée nationale s'arroge la puissance spirituelle et oblige les ecclésiastiques à prêter le serment constitutionnel. En 1864, dans l'encyclique Quanta Cura, Pie IX, à la suite de Grégoire XVI, qualifie de délire l'opinion selon laquelle la liberté de conscience et de culte est un droit propre à chacun. Et accompagnant cette encyclique, il y avait le célèbre Syllabus, qui cherchera à cerner et condamner les fondements du libéralisme philosophique, qui promeut une liberté de conscience absolue. En Belgique, on a connu ça, le libre examen, par exemple. Léon XIII, ensuite, se situe dans une perspective plus thomiste, et il va distinguer 2 sociétés, l'une temporelle, l'autre spirituelle, et 2 ordres de loi et 2 pouvoirs. L'Église est libre parce que son message transcende le pouvoir politique. Et mieux que cela encore, l'Évangile fait partie intégrante du bien commun, ce qui justifie la défense des concordats, donc des accords entre le pape, le Vatican et des États réputés catholiques. On peut reconnaître ici une distinction qui reviendra plus tard et qui se trouve sur votre feuille de route là. C'est la distinction entre la thèse et l'hypothèse. La thèse représente l'idéal supposé, indépendant des circonstances. Et cet idéal, qu'est-ce que c'est? C'est un état où le catholicisme serait la religion honorée par l'État, la religion officielle. L'hypothèse, c'est le compromis réaliste dans lequel il faut bien vivre le plus souvent. En l'absence d'un État catholique, en vue d'un mal plus grand à éviter ou d'un bien plus grand à obtenir ou à conserver. Après la guerre de 1914, le surgissement des totalitarismes sur la scène mondiale provoqua l'émergence de nouvelles orientations. Pie XI, Pie XII élaborent une doctrine, on va dire, un peu renouvelée, qui rayonne à partir de la dignité de la personne humaine et de la liberté des consciences. Celle-ci est inaliénable et aucune idéologie ne peut y attenter. On est bien sûr à l'époque du nazisme, du stalinisme, etc. Du fascisme, bien entendu, en Italie aussi. L'enseignement pontifical tend ainsi à se joindre au grand mouvement qui, après la guerre et suite à la Shoah, porte et inspire la Déclaration des droits de l'homme de 1948, qui est assez différente de celle de 1789. 1789, on va dire que c'est laïciste. 1948, c'est ouvert à la transcendance et ça parle de la liberté religieuse. Mais il reste une question quand même pour les catholiques. Comment accepter que la religion catholique, que les catholiques reconnaissent comme étant de droit divin la seule vraie, ne soit pas explicitement reconnue comme telle toujours et partout? Alors les partisans de la théorie disjonctive entre la thèse comme perfection et l'hypothèse comme compromis réaliste maintenaient comme règle que l'erreur et le mal doivent être réprimés par le gouvernement là où c'est possible et seulement tolérés là où on n'est pas en mesure de les réprimer sans dommage pour le bien commun. L'erreur n'a pas de droit, mais toute personne a droit au respect, d'où l'élaboration d'un principe de simple tolérance. Dans son encyclique Pacem in Terris, Jean XXIII élargit la vision magistérielle et il prépare ainsi l'avancée qui sera celle de Dignitatis Humanae. Il s'appuie sur la doctrine de Pie XI, de Pie XII, à propos de la dignité de la personne humaine, qui est le fondement de la société et de l'État. Mais l'encyclique ajoute aux valeurs traditionnelles de justice, de vérité, d'amour, un quatrième élément, la liberté, comme première exigence présupposée par les trois autres. Pas de justice, de vérité, de charité sans la liberté. Arrive la période du Concile, et le comité élaborateur de la future déclaration est essentiellement constitué par Mgr Pavane, un Italien, mais surtout par un jésuite américain, le père John Courtney Murray, et deux Belges, le père Jérôme Amer, dominicain, qui deviendra plus tard cardinal, et Mgr De Smet, évêque de Bruges. Le soin d'élaborer le texte est confié au secrétariat pour l'unité des chrétiens. Et l'élaboration commence fin 1960, au sein d'abord d'une sous-commission belgo-suisse. Premier document, le document de Fribourg. Ensuite, il y aura 6 versions du texte qui sera voté à la clôture du Concile le 7 décembre 1965. Je ne m'étends pas plus à ce sujet, je passe tout de suite à l'approche thématique de la déclaration. Au XIXe siècle, on comprenait la liberté de religion et de culte comme la possibilité pour chaque homme de choisir, arbitrairement, pourrait-on dire, par goût, sa religion. Et c'est contre ça que les papes ont condamné. Dignitatis Humanae ne se situe pas dans cette perspective du rapport de la personne avec Dieu. Ce n'est pas l'élément central. Ce qui est important, c'est le rapport qu'entretient la personne au point de vue juridique avec l'État et les autres citoyens. Le sous-titre du document est évocateur « Du droit de la personne et des communautés à la liberté sociale et civile en matière religieuse ». On voit bien les limites du document à travers ce sous-titre. Le texte se prononce d'abord sur l'immunité de toute contrainte civile et non pas sur le devoir moral des hommes et des sociétés à l'égard de l'unique et véritable Église du Christ. La liberté religieuse dont il est ici question n'est donc pas arbitraire, à la différence de celles condamnées au siècle précédent. Il s'agit d'un droit civil à reconnaître en contrepartie de devoirs précis. Et le texte aborde la liberté religieuse sous l'angle socio-civique, avant d'en tirer quelques fondements théologiques. Après un préambule, vous pouvez le voir sur le plan que vous avez reçu, il y a d'abord une doctrine générale, les numéros 2 à 8, qui est ensuite éclairée par la révélation, les numéros 9 à 14. Le père Gonnet, qui a été un commentateur de cette déclaration, affirme, je vous ai mis la citation sur la feuille, « La démonstration rationnelle de la première partie ne pourrait être convaincante pour les chrétiens, catholiques ou non, si elle n'était pas appuyée par la seconde. Et la seconde partie serait vaine pour les non-croyants, si elle n'était cohérente avec la première. » Qu'est-ce qui résulte de ce texte globalement, mais une vision optimiste, assez typiquement catholique et même, pourrait-on dire, thomiste de l'homme. En prenant pour point de départ la dignité de la personne humaine et non la misère de sa condition pécheresse, on est à même de discerner un sens évangélique dans la prise de conscience de cette dignité par la société et d'en montrer toute la profondeur par la révélation. Il y a comme une identification ici de la liberté chrétienne et de la liberté humaine pour la formation d'un jugement vrai. Le chrétien a une référence spécifique à la révélation, mais la démarche fondamentale est identique que celle du non-chrétien. Dans tous les cas, le préambule affirme, dans la ligne amorcée par l'Omen Gentium 8, que vous avez déjà dû voir dans ce cours, que l'unique vraie religion subsiste dans l'Église catholique et apostolique à laquelle le Seigneur Jésus a confié le mandat de la faire connaître à tous les hommes. Subsiste, ne s'identifie pas, on dit pas « est », on dit qu'elle s'y trouve, indépendamment des figures historiques que prend l'Église. Tout ce qui s'y trouve peut y être patent, peut y être caché. Les catholiques eux-mêmes peuvent être conscients de tous les éléments de cette vraie religion ou ne pas en être totalement conscients. Il y a donc le jeu sur une non-identité entre l'Église dans son apparence concrète et le mystère qu'elle est. C'est important à retenir. J'aborde maintenant vraiment le point thématique, d'abord le point A, État et société. Dans Dignitatis Humanae, la distinction dominante, donc, n'est pas tant l'État et l'Église que l'État et la société civile. La déclaration ne considère ni ne présuppose l'existence d'un État chrétien idéal. L'État, qu'est-ce que c'est ? C'est un instrument, une instance de décision au service de la société civile. Et cette société civile est considérée comme capable de puiser en elle-même les ressources pour répondre aux exigences évangéliques de justice, de vérité, d'amour, de liberté, énumérées déjà par Jean 23. La société civile devient le cadre dans lequel s'établissent les relations entre l'Église et l'État. Désormais donc, toute relation entre l'Église et l'État se fera en quelque sorte de manière indirecte, l'Église étant considérée comme une composante de la société que l'État a pour mission de servir, de protéger, de promouvoir. Donc, on se situe ici à un niveau national. Même si Dignitatis Humanae, à la fin, au numéro 15, considère avec joie la reconnaissance nationale et internationale du droit à la liberté religieuse, la déclaration ne concerne pas les autres dimensions de l'Église, comme par exemple l'Église en tant qu'entité internationale, universelle, le caractère étatique du Vatican, les relations diplomatiques que celui-ci peut avoir, ni non plus d'ailleurs le caractère spécifiquement transcendant de l'Église. Les sujets du droit à la liberté religieuse sont de plusieurs ordres. Ce sont des personnes ou des groupes de personnes. Des personnes, la famille, la collectivité religieuse et parmi elles, l'Église. La collectivité religieuse est définie seulement comme une somme numérique au numéro 4. On ne lui donne pas de personnalité juridique, même si, du contexte, on peut lui reconnaître cette qualité. Selon le cardinal Pavan, un des rédacteurs, ça a été volontaire. C'est dû au fait que la rédaction du texte a été influencée par une préoccupation théologique, celle de mettre une différence entre la sacramentalité de l'Église catholique et la simple socialité naturellement intrinsèque à toute foi religieuse. Si on partage les mêmes croyances, on a tendance à s'associer. Mais on a cherché à mettre simplement ça sous forme de rassemblement numérique pour bien distinguer par rapport au sein de toutes ces collectivités l'Église qui est d'un autre ordre aux yeux du catholique en tout cas. La famille est centrale aussi dans l'exercice de la liberté religieuse. C'est un des corps intermédiaires de la société civile. C'est par elle que s'articule le droit à la liberté religieuse avec la société dans le choix des écoles pour les enfants par exemple. C'est aussi le milieu où peut naître et s'épanouir l'expérience religieuse de l'enfant. Elle jouit donc d'un droit propre primordial, notamment l'organisation de la vie religieuse au foyer sous la direction des parents. Un second point thématique, le rapport entre loi et conscience. Comment la société, comment les citoyens dans la société vont-ils vivre la recherche de la vérité? Derrière le texte de la Déclaration, il y a la prise de conscience que la liberté en matière religieuse donne un fruit plus grand que tout privilège qui serait accordé à l'Église catholique comme, entre guillemets, unique Église du Christ. Donc ici, il y a une espèce de pari, une confiance renouvelée dans la puissance de l'esprit œuvrant à travers le témoignage des chrétiens au sein de la société, ainsi qu'une reconnaissance de la légitimité et de la force du droit et de la raison pratique, la conscience. Dans le rapport de la conscience avec la loi divine, ce que Dieu demande et prescrit, eh bien, la Déclaration considère le rapport de la conscience de la personne à la vérité comme un devoir et un droit, les deux intimement liés. Devoir de chercher la vérité et droit de la connaître. L'homme n'est pas extérieur à la vérité, comme si la volonté de Dieu tombait comme un aérolite totalement étranger à la vie quotidienne. Pas du tout. Non, la vérité est intérieure aussi à la liberté, au dynamisme humain, au dynamisme de la conscience. Et donc, la loi divine est partie intégrante de la relation de Dieu avec l'humanité. Comment se fait l'application de la loi divine dans la vie quotidienne? Eh bien, moyennant, bien sûr, le jugement de la conscience. Ma conscience m'oblige quand elle discerne quelque chose de juste. Mais personne ne peut me contraindre et ne peut contraindre ma conscience. En matière religieuse, l'obligation de conscience n'est pas seulement intérieure, mais elle a un aspect extérieur et social, ce qui suppose la liberté civile. Pour être vrai, l'acte de foi suppose d'être à l'abri de toute coercition, sinon il n'est pas libre. Le rapport à la vérité doit donc être vécu consciemment, librement et de façon responsable. Alors il faut faire ici une différence entre liberté civile et morale. Je vous lis un petit extrait de Dignitatis Romanae III, que vous avez sur votre feuille aussi, point B. La norme suprême de la vie humaine est la loi divine elle-même, éternelle, objective et universelle, par laquelle Dieu, dans son dessein de sagesse et d'amour, règle, dirige et gouverne le monde entier et dispose les voies de la communauté humaine. De cette loi qui est sienne, Dieu rend l'homme participant, de telle sorte que par une heureuse disposition de la providence divine, celui-ci puisse toujours davantage accéder à l'immuable vérité. Autrement dit, en partageant sa grâce, Dieu partage aussi sa sagesse, et lorsqu'il nous donne sa loi, ça veut dire qu'il nous demande d'agir à son image, d'agir d'une façon divine. La conscience, ici dans le texte, ne se confond pas avec une simple préférence subjective arbitraire. C'est une participation rationnelle, importance de la raison, à la vérité et à la sagesse. Ce numéro 3 de la déclaration montre aussi que la dimension collective de la recherche de la vérité s'allie avec le rapport à Dieu et à la loi divine pour s'ouvrir sur la religion. On s'est abstenu d'introduire le terme plus ou moins technique de loi naturelle parce qu'on avait peur d'une ambiguïté, l'idée d'une religion naturelle ou encore d'un état naturel indépendant de toute révélation. On a laissé tomber ce terme pourtant traditionnel qui pouvait être mal compris et dont la suite après le concile, on a bien vu que l'évolution de la théologie morale a bien montré qu'il y avait un réel danger à mal comprendre ce terme, et on a préféré insister sur la notion de dignité de la personne humaine comme participation à Dieu par la création. Alors comment s'articule maintenant le rapport entre vérité et liberté ? C'est un redoublement du problème loi-conscience. Et ici, le texte refuse, excusez-moi pour les gros mots, une conception, je l'ai déjà dit d'ailleurs, extrinsèciste de la vérité. Donc quelque chose comme si la vérité était absolument ou de prime abord extérieure à la liberté, comme s'il n'y avait pas déjà une certaine adhésion spontanée de la liberté au vrai, au juste, au bon. Le texte valorise une conception anthropologique particulière. On ne parle pas, ou on ne parle plus, parce qu'on en a parlé dans les textes qui ont précédé le texte définitif, de l'hétéronomie de la conscience, donc comme si la conscience avait sa propre norme en dehors d'elle. On n'en parle plus, je ne veux pas dire que c'est foncièrement mauvais, mais on n'en parle plus. On se contente de parler de la dignité humaine. Et cette dignité demeure et est permanente, même lorsque la personne ne fait pas droit à la vérité divine. Il y a donc une grande exigence qui est manifestée à l'homme. Elle trouve son équilibre et son fondement dans la nature responsable de l'homme. L'impossibilité pour tout être humain de se soustraire au devoir d'entrer en relation avec Dieu et d'exercer les responsabilités qui en découlent constitue la racine la plus profonde du droit à la liberté religieuse. La liberté religieuse a donc pour fondement ontologique, l'obligation de chercher la vérité. La vérité est une valeur, quelque chose d'important, à laquelle l'être humain est naturellement porté à s'ouvrir. Et l'homme ressent à l'intérieur de lui-même l'exigence d'y adhérer, même si c'est par tâtonnements successifs. Et comme cette exigence se traduit pour lui dans son expérience par une sollicitation à la fois intérieure, mais aussi extérieure, à aller vers l'extérieur, et puis en voyant d'autres se poser ces questions, eh bien, il y a absence de contrainte intérieure mais aussi au sein des rapports sociaux. Donc pas de contrainte directement sur la personne, pas de contrainte non plus au niveau des structures. C'était important à l'époque parce que souvenez-vous qu'il y avait encore quand même un État très important dans le monde qui s'appelait l'URSS et dont la constitution de 1936, je crois, proclamait la liberté religieuse tout en faisant en sorte qu'elle n'existe pas. Les êtres humains, dans leur ouverture progressive à la vérité, car on s'ouvre à la vérité, on l'accueille, on ne met pas la main dessus comme sur un objet, les êtres humains peuvent parvenir à connaître Dieu comme leur origine et leur fin, et à saisir la loi qui les ordonne à cette fin. Mais cette connaissance ne s'acquiert pas seulement de manière individuelle, mais aussi en commun, par l'échange, le partage sincère et libre. La vérité n'est donc pas au terme d'une recherche simplement. Elle est déjà présente à la source de l'acte lui-même de chercher. Et elle doit donc être présente aussi dans le droit qui rend socialement possible cette recherche libre. Chacun est tenu de rechercher la vérité et d'y adhérer au fur et à mesure qu'il la découvre. Donc il y a une dimension historique de la vérité, ce qui est aussi quelque chose d'assez nouveau dans l'enseignement magistériel sur ce sujet. Donc la société devient un grand laboratoire, le lieu où la recherche de la vérité doit être rendue possible. La liberté est reconnue comme une ou comme la condition de manifestation de la vérité. C'est bien sûr pas une vérité d'ordre mathématique, pas l'évidence des mathématiques. C'est plutôt une lumière de l'être dans lequel on ne peut entrer que par une appréhension, une intelligence progressive, mais qui, dit le numéro 1 de la déclaration, déjà nous enveloppe et nous pénètre avec autant de douceur que de puissance. La liberté de la personne douée de raison et de volonté libre est ainsi pressée par sa nature même de chercher la vérité en matière religieuse. Si maintenant on regarde le texte sous l'angle de l'articulation entre droit et devoir, on en a déjà un peu parlé, regardons ça de façon plus précise et systématique. Vous pouvez voir la citation de Mgr de Smet qui se trouve sur votre feuille de route, je la lis. De façon positive, la liberté religieuse est le droit de la personne humaine au libre exercice de la religion selon les exigences de sa conscience. De façon négative, elle est l'absence de toute contrainte extérieure dans les relations personnelles avec Dieu que revendique la conscience. La liberté religieuse implique l'autonomie de l'homme, non pas ab intra, mais ad extra. Donc, il n'est pas autonome par rapport à sa conscience, mais il est autonome par rapport au pouvoir qui pourrait le contraindre à l'extérieur. Ab intra, l'homme n'est pas libre d'obligation dans le domaine des questions religieuses. Ad extra, sa liberté est lésée lorsqu'il ne peut obéir aux exigences de sa conscience en matière religieuse. Le droit à la liberté religieuse n'est donc pas un droit civil concédé. C'est ce qu'envisageait la thèse au XIXe siècle, lorsqu'elle autorise l'État, pour préserver le bien commun, à tolérer la profession d'une religion qui serait entachée d'erreurs. On concède, on tolère. Ici, ce n'est pas ça. C'est un droit fondamental qu'il faut absolument reconnaître car il repose sur la dignité de la personne. Pour autant, on n'affirme pas ici une conception métaphysique du rapport personne-valeur, mais une conception simplement juridique, intersubjective, de caractère social civil. Pour cette même raison, l'objet du droit en question n'est pas le contenu des croyances religieuses, mais l'immunité à l'égard de toute coercition prohibitive ou obligeante. Cette absence de contrainte se déploie alors selon trois axes. Premièrement, l'accomplissement des actes externes du culte individuel au communautaire, privé au public, donc le culte, la prière dans sa chambre ou à l'église, ou à la mosquée. Deuxièmement, la diffusion des convictions religieuses, la possibilité d'évangéliser, de parler dans les médias, etc., de publier, par exemple. Troisièmement, la subordination par les citoyens de toutes leurs activités, y compris temporelles, à leur foi religieuse. Il peut y avoir, pour des raisons religieuses, des cas d'objection de conscience. Ça doit pouvoir être reconnu. Ma religion m'interdit de faire, de poser tel acte. Le numéro 2 de la déclaration fait coïncider ces trois aspects du droit exprimé négativement avec trois aspects du devoir. Alors, le droit du culte correspond à l'obligation morale de chercher la vérité, particulièrement en matière religieuse. Le droit de diffuser les convictions religieuses correspond à l'obligation d'adhérer à cette vérité dès qu'elle est connue. Ça ne veut pas dire connue parce qu'on vous l'a dite, c'est plutôt dès qu'elle est reconnue. On la reconnaît comme vérité, qu'elle est connue comme vérité. Et troisièmement, donc le fait de subordonner sa vie à sa foi entraîne le devoir de régler toute sa vie selon les exigences de la vérité qu'on a pu trouver. Donc le droit n'existe que par le devoir de chercher la vérité. Ce qu'il est juste de recevoir, le droit est corrélatif à ce qu'il est juste de donner, le devoir. Le droit individuel, dans la déclaration, est mis en corrélation avec d'autres concepts que le devoir. La justice, le bien commun. Au numéro 6, le bien commun demande la sauvegarde des droits et des devoirs de la personne humaine qui sont la manifestation de la dignité de cette personne dans les différentes sphères de responsabilité. Le bien commun paraît donc constituer un interface entre droit et devoir. Alors, le bien commun, qu'est-ce que c'est ? Vaste question. On peut avoir une définition très englobante ou essayer de revenir à ce qui est le plus central, on va dire. Ici, on ne retient qu'une vision dynamique et personnelle. Le bien commun fondamental, c'est, et ça reste, je m'excuse, de faire toujours le même refrain entre différents couplets, la dignité de la personne humaine. Il ne s'agit pas d'un simple ordonnancement primant sur les personnes qui permettrait la stabilité de la communauté. Identifier le bien commun au bien de la nation. Non. Le bien commun repose d'abord sur les personnes, sur leur capacité d'exercer pleinement la responsabilité qu'elles ont en propre dans la société. Ça aura des conséquences ultérieures. Nous verrons cela très brièvement en abordant l'enseignement de Jean-Paul II sur la question. Dernier point thématique, le rapport entre le moral et le légal. Dans la Somme théologique, saint Thomas affirme que la fin de la loi humaine et celle de la loi divine ne se confondent pas. L'une se limite à la viabilité de la vie en société, la loi humaine, l'autre, la loi divine, à la conduite des âmes vers le salut. On comprend alors que le législateur civil ne puisse sanctionner que dans sa sphère stricte de compétence. Il lui revient de condamner ce qui trouble le bon fonctionnement, la bonne marche de la société, ce qui trouble l'ordre public. Mais évidemment pas ce qui relèverait de ce qu'on appelle la conscience erronée, car les actes religieux par lesquels l'homme s'ordonne à Dieu, en vertu de sa décision personnelle, transcende l'ordre terrestre et temporel des choses. Alors, vieille question, revenant des tenants de la thèse et de l'hypothèse, est-ce qu'il y aurait un droit à la diffusion de l'erreur, puisqu'on est libre de diffuser sa croyance? C'est peut-être pas la meilleure façon de poser la question. Il n'est pas dans les attributions de l'État, religieusement incompétent, d'empêcher la conscience personnelle de rendre témoignage de ce qui lui paraît être la vérité. Mais pour le reste, l'erreur doit être tolérée dans les comportements religieux, en sachant qu'ils ne sont pas totalement faux, qu'ils contiennent une part de vérité, pour autant qu'ils respectent l'ordre public. La diffusion de leurs idées par les communautés religieuses comporte pourtant certaines limites en lien avec le bien commun. Elles ne doivent pas user de moyens incorrects, particulièrement à l'égard des gens sans culture et sans ressources, ce qui serait une atteinte aux droits de la personne, qu'on songe ici aux sectes. Mais le numéro 7 affirme que puisque c'est dans la société humaine que s'exerce le droit à la liberté en matière religieuse, son usage est soumis à certaines règles qui le tempèrent. Il s'agit du juste respect du droit d'autrui et des devoirs envers lui ainsi qu'envers le bien commun de tous. Ce bien commun a pour support l'ordre public, et c'est ici qu'on entre dans les sables mouvants, qui est dit conforme à l'ordre moral objectif, comprenant la paix publique reposant sur la vraie justice et la moralité publique. Alors, si vous demandez à un juriste ce que c'est l'ordre public, la moralité publique, il vous sortira le volume paru en 1954 sous la direction d'un certain Mallory, où on reprend des notions de juristes des États-Unis, d'Afrique, de tous les coins de l'Europe, où on parvient à vous dire l'ordre public, c'est pas ce que c'est. Indéfinissable. Enfin, si, il y a des approches, mais on n'arrive pas vraiment à le cerner. J'y reviendrai à la fin de ce cours. C'est un des problèmes de la déclaration, mais il n'y a pas moyen d'éviter ce problème, parce que c'est un questionnement qui est toujours en mouvement dans chaque société, à chaque époque. La moralité publique. Bon, on donne une définition globale, qui est un peu fourre-tout. Elle se rapporte à l'ensemble des attitudes qu'à telle époque et dans telle région, l'opinion publique et ceux qui sont regardés comme sages considèrent comme répondant aux bonnes mœurs telles que les prescrit la loi morale inscrite dans le cœur de l'homme. Selon que vous vous promenez d'un coin ou de l'autre de la planète, ça peut être très différent encore aujourd'hui. Dignitatis humanae sit, en abordant la question d'une conformité à l'ordre moral objectif, qu'il met en corrélation avec la paix publique et la vraie justice, s'abstient, je l'ai déjà dit, de parler de la loi naturelle, entre autres pour des motifs œcuméniques, mais pas seulement. Mais aussi parce que l'extension de cette loi naturelle ne se limite pas à la seule sphère publique. Ordre public et unité de foi ne sont plus considérés comme inséparables, comme ça a pu l'être spécialement en France, sous l'Ancien Régime, et comme on aurait voulu le faire de nouveau, par exemple, les Maurrassiens. Le gouvernement n'a pas à interdire tout ce qui est contraire au bien commun, dont fait partie la vérité, mais seulement ce qui entrave l'ordre public. Quand on dit ordre public, ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas seulement ce qui passe à la télévision, ce qui se passe dans la rue. On parle d'un ordre qui concerne le public. La question de l'avortement, ça touche à l'ordre public, parce que ça touche au statut de la personne dans la société. C'est une question d'ordre public. Et c'est là qu'on entre dans des sables mouvants. Cet ordre public est à la fois élément et condition de possibilité du bien commun, cadre légal dans la société pour l'épanouissement de tous et chacun dans la recherche de la vérité. Le droit à la liberté religieuse doit être promu par l'État, qui doit donner à chacun les moyens de l'exercer en conformité avec sa conscience. Mais par ailleurs, là où une religion est majoritaire, elle ne peut manquer d'influer sur la société et sur sa physionomie politique et sociale. Dans ce cas, la protection efficace de leurs droits doit être assurée aux citoyens appartenant à une religion minoritaire. Car même, dit le numéro 6 de la Déclaration, si en raison de circonstances particulières dans lesquelles se trouvent des peuples, une reconnaissance civile spéciale est accordée dans l'ordre juridique de la cité à une communauté religieuse donnée, il est nécessaire qu'en même temps, pour tous les citoyens et pour toutes les communautés religieuses, le droit à la liberté en matière religieuse soit reconnu et respecté. Et cette règle, l'Église entend l'appliquer à elle-même, là où les circonstances la placent dans une position privilégiée. Inversement, elle demandera aussi l'application du même principe là où elle est minoritaire. Vaste question encore, notamment par rapport à l'islam, j'en reparlerai brièvement à la fin à propos de Benoît XVI. L'Église donc ne revendique pour elle-même que ce qu'elle demande aussi pour les autres. Elle assume le droit à la liberté religieuse comme un critère fondamental de l'accomplissement de sa mission. Le caractère confessionnel catholique d'un État ne peut donc être qu'un moyen indirect, secondaire, de contribuer éventuellement au règne de la vérité, de la justice, de l'amour, et est très secondaire par rapport aux préceptes d'humilité, de charité, d'abnégation enseignés par le Christ lui-même. Les groupes religieux sont invités donc à s'engager pour qu'ils manifestent librement l'efficacité singulière de leur doctrine pour organiser la société. Donc pas de privatisation du domaine religieux. Au contraire, le numéro 3 donne pour tâche à l'État de reconnaître et favoriser la vie religieuse des citoyens. Donc si l'État n'a pas de responsabilité en matière religieuse et ne peut forcer les consciences ni leur faire obstacle, il a cependant une certaine responsabilité indirecte au sens où il doit aider les citoyens à promouvoir leur foi. Et il a la charge temporelle à s'orienter lui-même vers un souverain bien. Alors ici encore, il faut distinguer État et société civile. La société civile a le devoir d'honorer Dieu, la morale prescrit à l'État de garantir les mêmes droits religieux pour tous, sans discrimination ni favoritisme. Ce n'est pas le même devoir, ce n'est pas la même perspective. Pour autant, on ne sépare pas le naturel et le surnaturel en deux compartiments étanches. On reconnaît déjà au sein du temporel, de la vie en société, des germes de transcendance qui dépasse cette vie elle-même. Alors la deuxième partie de la déclaration, la liberté religieuse à la lumière de la révélation, eh bien c'est issu de questionnement lors de l'élaboration du texte. On s'était demandé ce qu'on allait valoriser comme point central du texte. Il y a une hésitation entre la dignité humaine, qui finalement, on va dire, l'a emportée, d'un côté, et d'autre côté, la vocation divine, sur laquelle reposaient certains schémas précédents. Et cette idée de vocation divine est présente dans la seconde partie, mais qui parle donc de façon plus précise et plus particulière aux croyants. Le premier constat, c'est qu'il est impossible de prouver avec l'Écriture qu'il y a un droit à la liberté socio-civique en matière religieuse. Il ne s'agit pas d'aller voir comment ça se passait au temps de Jésus au niveau juridique et si c'est présent dans les évangiles. Non, ce qu'on a préféré montrer, c'est comment l'Écriture, de nouveau, valorise la dignité humaine. Et comment Dieu, s'étant fait homme en Jésus-Christ, valorise et donne une valeur absolue et un fondement divin explicite à la personne. Dans Dignitatis Humanae 9, le droit civil à la liberté religieuse n'est pas énoncé formellement dans la Révélation, mais il y trouve ses racines à travers la dignité humaine manifestée pleinement par la libre révélation de Dieu en Jésus-Christ et dans la nature même de cette révélation destinée à être librement accueillie. La façon dont Dieu se révèle lui-même suppose, implique la liberté religieuse. Alors, un premier point parle de l'exemple du Christ et des apôtres. Je ne vais pas m'y attarder longtemps. On met en valeur l'agir du Seigneur, doux et humble de cœur, qui a patiemment attiré et invité ses disciples. Ce n'est pas en frappant que le royaume se promeut ou se défend, mais c'est par le témoignage rendu, l'oreille prêtée à la vérité qu'il s'affermit. Il s'étend grâce à l'amour par lequel le Christ, élevé sur la croix, attire à lui tous les hommes. Une seconde partie manifeste comment la liberté est comprise dans la façon même dont la Trinité se révèle. Pas moyen de penser la liberté chrétienne à la lumière, sans la lumière, du mystère trinitaire. Dieu agit dans l'histoire par l'Esprit Saint, qui déploie l'action du Fils en vue de tout remettre au Père. L'Église participe à cette mission du Fils en répondant librement par la foi sous la motion du Saint-Esprit à l'appel du Père. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais le temps avance et je préfère passer brièvement à la postérité de la déclaration. Paul VI n'est pas énormément revenu sur le sujet, sinon pour ferrailler, entre autres avec l'URSS. Je vous ai parlé de la situation particulière de ce pays à cette époque et des ambiguïtés de la relation entre la Constitution et les faits. Avec Jean-Paul II, une nouvelle réflexion va venir au jour, établissant peu à peu une hiérarchie des droits fondamentaux. Vous vous souvenez sans doute, on vient de fêter les 25 ans de la première rencontre des religions à Assise en 1986. Ce fut pour le pape l'occasion de rappeler que la nature, l'origine, la destinée commune des personnes font de la conscience et de l'obéissance qui lui est due un élément essentiel sur la route vers un monde meilleur. C'est l'homme qui mesure ici les figures de la religion, des religions. Il est l'acteur et le destinataire de la paix, comme l'exprime très bien la règle d'or, « Agissez envers les hommes comme vous voudriez qu'ils agissent envers vous ». Principe à appliquer au niveau, entre autres, de la liberté religieuse. Ce qu'il a esquissé dans son discours d'assises, Jean-Paul II l'articulera ailleurs dans une nouvelle hiérarchie des droits spécifiques. La liberté religieuse devient, je cite divers messages qu'il a écrits à propos de dans différentes circonstances, devient la mesure des autres droits fondamentaux, une pierre angulaire de l'édifice des droits de l'homme, un élément essentiel de la cohabitation pacifique des hommes et la raison d'être des autres libertés, pour ne pas dire leur base, avant même la liberté de pensée et de conscience. Si le droit des personnes est un dû à leur égard, les personnes ont quant à elles un dû à la communauté, le respect du bien commun. Mais les personnes, comme le bien commun, ne peuvent transcender la volonté du pouvoir que si on reconnaît au bien commun et aux personnes un fondement divin. C'est pourquoi, aux yeux de Jean-Paul II, le droit à la vie occupe le premier rang, tandis que le droit à la liberté religieuse est comme le fondement des autres droits et il leur sert en quelque sorte de matrice. Le catéchisme de l'Église catholique, publié sous le règne de Jean-Paul II, insère le droit à la liberté religieuse dans le cadre du devoir social de religion. Ici, il y a un équilibre un peu nouveau. Il y a droit à l'exercice d'un devoir fondamental pour l'homme qui est d'honorer Dieu. La liberté religieuse est alors perçue comme partie intégrante d'une exigence inhérente à la nature de l'homme. C'est plus simplement la dignité humaine, on parle du désir, du dynamisme fondamental de l'homme en sa nature, en son essence. On se souvient pour le numéro 3 de la déclaration, le devoir fonde le droit. Ici, l'insistance porte davantage sur le rapport de l'homme à Dieu qui fonde cette dignité humaine. C'est pourquoi, dans cette ligne, le catéchisme va affirmer que l'obligation de chercher la vérité sur Dieu, c'est une chose, mais aussi sur son Église, est d'ordre naturel. Donc, rechercher la vérité sur l'Église fait partie de l'aspiration naturelle de tout homme. Et en ce faisant, le pape met en interaction les numéros 1 et 2 de la déclaration qui étaient jusqu'à présent donc dans le texte qui ne sont que juxtaposés. Donc ça devient pas seulement un droit d'ordre civil, mais un droit naturel. Benoît XVI a fait des reprises de Jean-Paul II dans Deus Caritas Est, ou alors dans son tout récent discours tenu à la rencontre interreligieuse d'Assise pour les 25 ans de la première rencontre. Bon, je passe parce que ce n'est pas tellement nouveau par rapport à Jean-Paul II. Mais ce qui a involontairement amené un questionnement nouveau dans l'enseignement de Benoît XVI, c'est sa fameuse allocution très controversée tenue à Ratisbonne en 2006, le fameux discours de Ratisbonne, qui a fait scandale à l'époque. Le pape s'attache à l'analyse du rapport entre religion et violence, et il souligne l'importance de la raison pour le christianisme par contraste avec une grande part de l'islam. C'est ce que évoquait dans une discussion qu'il rapporte l'empereur Michel Paléologue au XIIIe ou XIVe siècle, je ne sais plus. Mais en évoquant cette question, le pape pose indirectement la question de l'origine chrétienne de la rationalité occidentale. Même si la raison a pu prendre peu à peu son autonomie, grâce à ce que Marcel Gauchet a pu appeler la religion de la sortie de la religion, le christianisme, la figure de la raison occidentale, moderne, n'obtient pas une si grande crédibilité dans les mondes musulmans ou asiatiques, pour faire bref. Dès lors, on peut se demander si le message de la déclaration conciliaire aura un quelconque impact dans de telles cultures, et sinon, comment tenter d'effectuer une transposition. Vaste question. Mais à tout le moins, faut-il que nous balayions devant notre porte que nous ayons une certaine déontologie et une certaine cohérence, nous les chrétiens. À ce sujet, je vais peut-être faire scandale, mais il me semble que le jugement favorable rendu en deuxième instance par la Cour européenne des droits de l'homme sur le maintien du crucifix dans des écoles officielles italiennes pose question. Et les réactions qu'il a suscitées jusqu'en haut de l'Église posent encore plus question. Voir dans le crucifix l'un des plus grands symboles de la civilisation occidentale, comme on l'a dit à l'occasion de ce jugement, c'est une chose. Imposer la vue de ce crucifix dans un lieu public au service de tous, au sein d'une société multiculturelle, me semble-t-il, en est une autre. On n'est pas loin, dans ce cas, me semble-t-il, d'une amorce de mimétisme à l'égard de ce qui constitue en régime islamique la dhimma, ce traité de reddition du nom musulman par lequel il se laisse imposer un certain nombre de devoirs et une limitation de ses droits. Par cette question délicate, nous approchons d'autres questions qui demeurent sans réponse à ce jour. Il y a bien sûr la distinction fort imprécise entre lieu public, qui appartient à tous et nécessite une certaine neutralité, on vient de dire l'école, la mairie et d'autres choses, et de l'autre, l'espace public, qui n'appartient à personne et s'ouvre à la liberté d'expression. Mais il y a surtout, j'y reviens, la question de l'ordre public. Celui-ci est l'expression d'un désir de stabilité fondamentale sur la base de certaines valeurs. Si les fondements de l'ordre public entretiennent une relation étroite avec l'ordre éthique, les finalités de l'un sont aussi jusqu'à un certain point les finalités de l'autre. L'ordre éthique tend à concilier ou à réconcilier, dans le respect de valeurs communes, l'intérêt de chacun avec l'intérêt d'autrui, jusqu'à promouvoir le bien commun de tous. Mais celui-ci est lui aussi sujet à discussion. Et étant donné la non-réception contemporaine du concept classique de loi naturelle que j'ai évoqué tout à l'heure et de son contenu, il ne peut en aller autrement. Et l'Église se trouve ici bien seule de nos jours. Sans doute doit-elle, comme toujours, se retourner sur elle-même pour scruter son cœur. Et dépassant la tentation obsidionale, c'est-à-dire de la mentalité de forteresse assiégée, découvrir de nouvelles ressources dans le dynamisme et le pari qui a fait conduire à l'élaboration de Dignitatis Humanae, pour d'abord inculturer sa foi, à frais nouveaux, et en l'inculturant, l'enrichir, en vue d'ensuite évangéliser les cultures d'aujourd'hui. Au même titre que tous les hommes, en effet, les chrétiens demeurent tenus de continuer à chercher la vérité sur le Christ et son Église. Mais plus encore, comme l'a dit Jean-Paul II au début de son pontificat, dans l'encyclique Redemptor Hominis, si Jésus-Christ est la route de l'homme, c'est ce qu'il dit dans le numéro 13, il affirme tout de suite après, dans le numéro 14, que l'homme est la route de l'Église.